La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Au commencement était l'action, Goethe. Ce mois-ci, discussion de Maritain avec Bergson. Et cette semaine, Homo Faber, Homo Sapiens. Homo Faber, Homo Sapiens. Qu'est-ce ? C'est le passage de l'action à l'intelligence. L'évolution va vers Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme sage, l'homme qui use de son intelligence. Mais voilà que la modernité, depuis la Renaissance, a mis l'accent autant sur l'action que sur l'intelligence, et en tout cas de plus en plus sur l'action pour définir l'homme. Quelques jalons. Au commencement était l'action, c'est la phrase si connue de Goethe. On peut penser au pragmatisme de William James, qui va insister justement sur l'action. Et aujourd'hui, un ami de William James, qui a beaucoup correspondu avec lui, Henri Bergson, va être lu par Maritain justement comme un philosophe promoteur de l'action, c'est-à-dire, aux yeux de Maritain, comme une régression conceptuelle. Je vais donc vous présenter l'œuvre de 1913, La philosophie bergsonienne, qui a fait connaître Maritain en tant que philosophe. Il s'agit d'une compilation de quand même 600 pages autour de Bergson, dont il fut l'élève, voire le disciple, dans les années 1904-1905 au Collège de France, où l'on se pressait par grappes entières. Quand on voit des gravures de l'époque, on voit les gens rentrer pratiquement par la fenêtre, la porte étant déjà obstruée par une multitude d'auditeurs passionnés. Pourquoi Bergson ? Maritain s'explique et dit que Bergson faisait respirer dans une atmosphère marquée par le positivisme, le scientisme, n'oublions pas, Auguste Comte a marqué le 19e siècle, puis Marx avec le Capital, et puis avec l'avènement finalement des sciences, Claude Bernard devient la référence, souvenez-vous d'une de ses phrases, « Je n'ai pas trouvé l'âme sous mon scalpel », repris par Zola dans les préfaces diverses de ses romans. On a un environnement où la science monte et dit que finalement le vrai s'oppose au faux, c'est-à-dire vrai-faux, on est dans une binarité mathématique ou expérimentale qui va s'opposer à la notion de vérité-mensonge qui est davantage l'apanage de la théologie. C'est Johannique, le quatrième évangile, insiste sur l'opposition entre vérité et mensonge et pas vérité faux. Et qui va devenir, cette opposition va devenir finalement aussi le lieu de la métaphysique où il s'agit de la recherche du vrai. Maritain reproche à Bergson d'avoir confondu la durée avec l'être, ou plutôt d'avoir fait glisser l'être dans la durée bergsonienne. Mais surtout, derrière ceci, c'est une conception de l'homme qui se retrouve, et c'est en particulier un retour à l'homo faber au lieu de l'homo sapiens. Pour vous donner une idée de la mesure de cette intuition, de cette critique maritainienne, c'est que sa grande œuvre, La philosophie bergsonienne, publiée donc en 1913, comme je le disais, se découpe en deux grandes parties, divisées elles-mêmes en sections. Pour la première partie, vous avez trois sections et vous avez plusieurs chapitres. Le chapitre dixième, s'intitulant « L'homme ». Je vous donne les titres de la deuxième section, « La doctrine bergsonienne » pour le chapitre 6, La critique de l'intelligence pour le chapitre 7, l'intuition et la durée qui sont les deux piliers de la philosophie bergsonienne pour le chapitre 8, chapitre 9, Dieu, chapitre 10, l'homme, chapitre 11, la liberté, chapitre 12, la philosophie nouvelle. Et nous allons nous arrêter plus longuement sur ces chapitres et en particulier sur le chapitre 10, l'homme, qui est pratiquement le centre de gravité de la philosophie bergsonienne, puisque la deuxième partie ne comporte que deux chapitres, le 16 et le 17, suivis d'un assez long appendice qui qui est constitué par des gloses sur Aristote. Autrement dit, on arrive approximativement à 20 chapitres et la moitié de 20, c'est 10. Autant dire que l'homme, ici, est au centre de la réflexion maritainienne par rapport à Bergson. Dans les premières pages de la philosophie bergsonienne, Maritain met tout de suite le doigt sur cette différence radicale entre Homo sapiens et Homo faber à propos de la genèse des corps. Pour M. Bergson, la théorie de la connaissance et la théorie de la vie sont inséparables. Elles s'éclairent l'une l'autre et doivent sortir toutes deux ensemble d'une même enquête sur la nature de l'évolution. Vous reconnaissez ici l'héritage de Darwin. On est après Darwin. Nous essaierons néanmoins, pour la clarté de l'exposition, de résumer à part ce que M. Bergson nous apprend de la genèse des corps et ce qu'il nous révèle de la genèse de l'intelligence. Dans les perspectives bergsoniennes, le problème de la création est, comme la plupart des problèmes, un problème mal posé, qui ferait mieux de s'évanouir. Vous reconnaissez la verve, la critique acerbe de Maritain, n'oublions pas, c'est un filleul de Léon Blois, et sa plume lui a souvent valu des déboires, une incompréhension en tout cas. La substance des choses étant une durée réellement agissante, et cette durée dont nous expérimentons en nous la nature, signifiant continuité de changement, production ininterrompue d'actions nouvelles, de situations originales, d'inventions imprévisibles, bref, croissance perpétuelle et création incessante, il n'y a plus lieu de se demander si l'univers a été créé d'un coup ou s'il est par lui-même. Il se crée, voilà tout. Dire qu'une chose se crée serait contradictoire, la chose n'étant qu'une solidification du devenir opéré par l'entendement. Il n'y a pas de chose créée, ni d'être créateur, mais il n'y a que l'action. L'action pure, extra-spatiale. L'action qui grossit en avançant. Elle crée au fur et à mesure de son progrès. C'est ce que chacun de nous constate quand il se regarde agir. Ainsi, commente Maritain, l'idée de création devient plus claire car elle se confond avec celle d'accroissement. Mais d'accroissement toujours nouveau, radicalement imprévisible. La création ainsi conçue n'est pas un mystère. Nous l'expérimentons en nous dès que nous agissons librement. En ce sens, la création d'un monde est un acte libre. Vous voyez que la différence entre Homo sapiens et Homo faber en concerne toute la façon de voir le monde et concevoir un accroissement permanent, perpétuel, une auto-génération, cela enlève le sceau de l'acte créateur et cela fait passer l'action en premier lieu. Il n'y a plus finalement d'homo sapiens, de sagesse, il s'agit de se définir toujours par rapport à un agir, voire à une action qui s'auto-génère comme la lave d'un volcan. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, on a une sorte de lave qui est incessamment produite. Et cette fracture, pour Maritain, est tellement profonde, tellement radicale, qu'elle est le signe de la philosophie dite nouvelle par le philosophe de Meudon. philosophie nouvelle. Qu'est-ce ? Pour Maritain, c'est très clair, c'est une philosophie qui n'est pas métaphysique. Bergson a donné pourtant une oxygène. Mais il n'a eu que l'éros métaphysique. Comme dit Maritain, il n'est pas allé jusqu'à la métaphysique. Il s'est arrêté en route, pour ainsi dire, ayant la sensation, l'intuition, on va dire, de la métaphysique, ce qui fait dire à Maritain, à la fin de la philosophie bergsonienne, ce grand ouvrage de 600 pages, qu'il y a deux bergsonismes, un bergsonisme d'intention, c'est-à-dire cette sensation, cette intuition qu'il faut revenir à une métaphysique, et le bergsonisme de fait qui n'a pas pu arriver à cette métaphysique à cause de confusion. Nous avons vu une première confusion ou une première superposition, celle de la création à l'accroissement. L'accroissement permet à l'action d'être première, alors que la création permet à l'homme d'être un homo sapiens et donc de mettre l'intelligence en premier chef, on va dire. C'est vraiment le cas de le dire, surtout dans cette ville de Toulouse où nous avons le chef conservé de Saint Thomas d'Aquin. Donc l'intelligence, la sagesse, le logos, qui est le signe de l'homme. Revenons à la critique de Maritain, la critique bergsonienne de Maritain, pour approfondir comment l'homo faber, c'est-à-dire l'action, l'emporte dans la philosophie nouvelle. Fondons dans une même nature ce que nous percevons de nous-mêmes, lorsque nous nous éloignons le plus de l'intellectualité, c'est-à-dire conscience non repliée sur soi, mais toute tendue en action. Vouloir instinctif et spontané, impulsion qui va s'affirmer par des actes contingents. Nous pouvons nous faire ainsi une idée du principe de l'évolution qui est une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, n'a rien de tout fait. Il est vie incessante, action, liberté. Il est le centre d'où les mondes jaillissent comme les fusées d'un immense bouquet. Ce sont des citations de Bergson commentées par Maritain. Et pour Maritain, c'est important de mettre les choses au point. Pourquoi ? Parce que on va arriver à une deuxième notion très bergsonienne. Vous avez entendu parler de l'élan vital. Cet élan vital va pouvoir fonder l'action comme ce jaillissement permanent. Alors que l'élan vital, hérité d'Aristote, est conçu comme une force qui va vers une finalité. Aristote lui donnera le nom d'entéléchie. Et cette entéléchie a été reprise par un biologiste allemand du début du XXe siècle, Hans Driesch, avec une recherche qu'il a pu faire sur les embryons d'oursins. Et revenant à cette observation, où il montre finalement qu'on n'y a pas de déterminisme, mais davantage une finalité dans la façon dont il observe au microscope la formation des embryons d'oursins, il reprend à Aristote la notion d'entéléchie, c'est-à-dire de force finalisée. Pour Bergson, regardons ce que veut dire l'élan vital, c'est-à-dire une force qui n'est pas finalisée, mais qui renvoie à un jaillissement de la vie elle-même, jaillissement qui tourne davantage la philosophie du côté de l'action plutôt que de la métaphysique. Tandis que la matière tend, sans jamais l'atteindre, vers la spatialité parfaite, qui consisterait en une parfaite extériorité des parties les unes par rapport aux autres, et vers la désindividualisation, de telle sorte que l'unique objet matériel qu'on puisse isoler est le système solaire dans son ensemble, un mouvement de direction tout opposé la traverse et la contrarie. Ici, nous avons la réalité vraiment positive, la continuation de l'impulsion créatrice, l'élan vital. La vie est avant tout une tendance à agir sur la matière brute, et à obtenir d'elle les moyens d'affirmer par des actions la liberté du vouloir créateur. Citation de Bergson, l'élan de vie consiste en somme dans une exigence de création. Il ne peut créer absolument parce qu'il rencontre devant lui la matière, c'est-à-dire le mouvement inverse du sien. Mais il se saisit de cette matière qui est la nécessité même et il tend à y introduire la plus grande somme possible d'indétermination et de liberté. Pour Maritain, ces glissements de sens, ces confusions sont graves parce que c'est un manque finalement de confiance dans l'intelligence, dans ce que je qualifiais d'homo sapiens, qui fait le lit de la nouvelle philosophie. Vie et conscience ont presque le même sens pour M. Bergson. Elles sont par essence une exigence de création. Conscience est synonyme d'invention et de liberté. Aussi, la conscience est-elle partout proportionnelle à la puissance de choix dont l'être vivant dispose, et dire que l'impulsion vitale tend à libérer la conscience, c'est dire qu'elle tend à assurer à l'être vivant une puissance illimitée de choix. Il s'agit, citation de Bergson, de créer avec la matière, qui est la nécessité même, un instrument de liberté, de fabriquer une mécanique qui triomphe du mécanisme et d'employer le déterminisme de la nature à passer à travers les mailles du filet qu'il a tendu. Mécanisme, cela renvoie à Descartes, pour le dire en bref, ou Descartes qu'on propose de voir l'homme comme une mécanique, mais on peut remonter, on peut dire la même chose de Hobbes. Chez Hobbes, c'est le mouvement qui l'emporte, parce que tous les corps vont être mis en mouvement comme le mouvement a une incidence en mécanique. Donc ce paradigme, pour utiliser ce mot moderne, de mécanique est lié, vous le sentez bien, à l'avancée de la science, et en particulier de la science physique, avec Galilée notamment. Et pour sortir de ce qu'on appelle le mécanicisme, hein, pour mettre rapidement un isme sur ce mouvement du XVIIe siècle, Bergson propose le vitalisme au sens de élan vital. Et vous voyez que se pointe déjà la critique de Maritain qui permettra d'opposer Bergson à Descartes, c'est-à-dire à vers et à paire de la même médaille, de les rapprocher. Bergson peut-il être rapproché de Descartes ? Oui, pour Maritain, et nous allons le voir au cours de ce mois dans les diverses émissions. Et comment ? Eh bien déjà, par le rôle du cerveau. Le cerveau de l'homme est, pour Bergson, une machine qui, au lieu d'absorber l'attention de son conducteur, lui permet de se distraire et de penser à autre chose. Il peut monter un nombre indéfini de mécanismes entre lesquels la conscience a le choix. Et parce que, ainsi, la puissance de choix de l'homme est illimitée, celle des animaux limitée au contraire, il y a, dit M. Bergson, une différence de nature entre l'homme et les animaux. Vous voyez combien l'action est prégnante ici. Il s'agit du choix et simplement d'une quantité qui va faire la différence entre l'homme et l'animal. On est très loin d'une vision thomiste de philosophie réaliste fondée sur la distinction aristotélicienne d'une âme unique, qu'on peut dire végétative pour les végétaux, âme sensible pour les animaux et âme intellective pour l'homme. Donc cette tripartition reprise en philosophie réaliste a l'énorme avantage de proposer des sauts, et en particulier le saut de l'animal à l'homme via Homo sapiens, via l'âme intellective, ce qui fait que l'homme cumule les trois âmes, l'âme végétative, l'âme sensible et l'âme intellective. Dans le système bergsonien, rien de tout cela, c'est une question finalement de degré, de quantité moindre ou de quantité supérieure, mais les conséquences sont graves quant à l'intelligence. Maritain le souligne tout de suite. Voici comment il critique Bergson. Le mot conscience a un autre sens pour M. Bergson. Il a le sens de connaissance. À ce point de vue, la vie a-t-elle réussi ? Non. Elle a dû laisser l'essentiel en route, au point que si la métaphysique ne pouvait, par un effort contraire à la nature, rejoindre ses virtualités abandonnées, il nous faudrait renoncer absolument à savoir autre chose que la géométrie et la physique. Renoncer à toute vérité supérieure. Là est l'enjeu. Si l'on choisit Homo Faber, il n'y a plus d'Homo sapiens. Nous sommes ainsi amenés à la seconde genèse opérée par la philosophie nouvelle, à la genèse de l'intelligence. Cette genèse se raconte en quelques lignes. La fonction essentielle de l'intelligence pour M. Bergson est de lier le même au même et de connaître des faits qui se répètent. Or, plus nous nous détachons de l'extérieur, plus nous amenons notre moi à coïncider avec lui-même, plus nous sentons une durée vivante où rien ne se répète. Citation, où le passé, toujours en marche, se grossit sans cesse d'un présent absolument nouveau. Et plus, dit Maritain, en même temps, nous absorbons l'intellectualité en la dépassant. Ainsi donc, en même temps que l'élan vital créait, en se ramifiant des milliers d'espèces vivantes, en l'une desquelles il parvenait à libérer la vie, en même temps le psychique immanent à cet élan, fasciné par la nécessité d'agir sur la matière, se détendait en intelligence. Mais si l'intelligence en est la distension, où donc est-il resté concentré ? M. Bergson répond dans l'esprit. Quel est le rapport entre l'esprit et le corps ? Comment comprendre cet esprit comme opposé à l'intelligence ? À la semaine prochaine.